Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité,
AAU. Que peuvent bien avoir en commun des tournois de scarabées de combat en Thaïlande et les instruments de mesure des géobiologues ?
Un même questionnement porté par Emmanuel Grimaud et Stéphane Renaisson lors de ce troisième séminaire de Sensibilia sur les voies de passage entre les corps et les formes de communication inhabituelles.
Alors je vais vite introduire Emmanuel et Stéphane. Emmanuel Grimaud et Stéphane Renaisson. Tous les deux sont anthropologues. Tous les deux travaillent à l'ESC, le laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. À Paris, ouais. Un travaille surtout en Inde, l'autre en Thaïlande. Entre eux, ils ont ouvert toute une multitude de pistes incroyablement intéressantes. Les auras, les fouilles archéologiques, le cinéma Bollywood, le kickboxing, l'astrologie, les robots, les automates religieux, les nagas, l'eau, les animaux. Mais ce qui les rassemble, c'est attention portée sous notre enchevêtrement, c'est dur ce mot pour un anglais, les enchevêtrements sensibles dans le monde, et la manière dont la communication et la connaissance émergent dans le travail de la relation et de la connexion, et la manière dont ces relations sont médiatisées par toutes sortes de corps, de technologies et de machines. Alors aujourd'hui, ils vont nous parler de avoir l'écran de leur recherche antérieure et de leur recherche courant sur la géobiologie aussi. Si j'ai bien compris, c'est un terrain qui s'est ouvert pendant le Covid, quand vous avez été privé de vos terrains préférés.
C'est un peu préférés. Ça. Ouais, c'est un peu un terrain par défaut. Non, c'est effectivement un moment où on ne pouvait plus partir du tout, Stéphane en Thaïlande et moi en Inde. Et donc on s'est retrouvés bloqués à Paris. Et puis on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un terrain sur la géobiologie ? Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, d'où ça nous est sorti cette idée. Mais enfin, on l'a commencé. Ouais. Mais ça a créé un échappatoire qui était vraiment salvateur. Quoi. Toutes les semaines ou tous les 15 jours, on partait dans les Pyrénées. Suivi d'une espèce de formation avec une école de géobiologie. Et puis c'est un terrain qui a commencé comme ça, et de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'en fait, on tournait autour de choses sur lesquelles on avait déjà travaillé quand on avait fait un terrain ensemble sur les scarabées, les poissons en Thaïlande, notamment tout ce qui était combat de scarabées. Et alors, exosensibilité animale, en fait. Parce que là, on était vraiment aux frontières des franges de la perception, quoi. Enfin, puisqu'on, c'est pas seulement des humains dont il était question, mais de la façon dont des insectes pouvaient percevoir le monde. Et donc, on avait proposé une notion à l'époque, mais qui est complètement... ça nous est revenu il y a 2 jours. On s'est dit, mais peut-être que c'est ça dont on va parler il y a 3 jours. C'est la notion de circuit faible. Alors, c'est une notion dont on va essayer de parler aujourd'hui. Bon, c'est complètement c'est aussi flou que le terme d'énergie. Enfin, désolé pour ça, mais en fait, il y a des concepts comme ça qui sont bien parce qu'ils sont flous, justement, et bon, ça permet de naviguer entre différents objets. Et c'est un peu la notion de circuit faible, pour nous, ça a été ça. Parce que, au fond, des circuits faits de briques et de brocs avec des... qui bousculent les frontières entre émetteurs-récepteurs, qui sont complètement incertains au niveau de leur connexion. Et ça, c'était une idée qui nous intéressait beaucoup. L'idée qu'il y avait aussi dans tous ces jeux avec les animaux des espèces de cybernétiques alternatives. On ne savait pas trop comment ça communiquait, comment ça fonctionnait, par où ça passe. C'est pour ça qu'on a intitulé notre intervention « Par où ça passe ?» parce que c'était vraiment la question qui nous intéressait à l'époque. Et on s'est aperçu que cette question, elle était vitale quand on a commencé le terrain sur la géobiologie, parce qu'elle était partout présente. chez tous les gens qu'on rencontrait, c'était un peu toujours la question. Alors, est-ce qu'il y a est-ce que c'est des énergies? Est-ce que c'était des fréquences? Alors, si c'était des fréquences, c'était à quel niveau que ça se passait? Si ça transitait par du corps humain, c'était par où? Si ça passait par le sol, c'était par où, etc. Enfin bon, bref, tous ces réseaux de conduction, et encore dire réseau, c'est aussi flou que la notion d'énergie. Donc, on tombait à chaque fois sur des concepts, au fond, qui pouvaient être assez pratiques, assez flous. Mais qui recouvrait des réalités très diverses selon les... Là, on se plaçait. Et alors, on est tombé, en fait, c'est un peu la surprise de ce terrain sur la géobiologie, on a réalisé qu'en fait, c'était un univers d'expérimentation presque, j'ai envie de dire, sauvage. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Mais avec des gens qui inventaient des choses, et notamment des dispositifs de connexion, de lecture de leur environnement, et même de participation collectif, je dirais, parce que souvent, enfin, c'est un peu le sens du matériau qu'on vous a donné, cette espèce d'entretien avec cet architecte géobiologue, qui avait lui-même fait des expériences en groupe. C'était toujours des expériences, des expérimentations avec des gens un peu clairvoyants, en groupe toujours, parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Et puis avec souvent la volonté d'inventer autre chose, enfin, disons, pas seulement de changer la perception ou la sensibilité, mais d'inventer des dispositifs qui permettent de partager avec d'autres, et même des techniques, et c'est un peu le sens de ce dont on voulait parler aujourd'hui, nouer presque un pacte avec des machines pour réformer la sensibilité, si vous voulez, et pour voir le milieu dans lequel nous baignons autrement. Alors cette aventure-là que la géobiologie entretient avec les machines, je dirais plus globalement les disciplines qui s'intéressent à la sensibilité, elle a une longue histoire. On ne va pas rentrer dans toute cette histoire, mais on a fait des terrains un peu croisés. Moi, j'avais travaillé sur les machines à mesurer les auras en Inde, donc il y avait tout un courant de gens qui s'étaient intéressés à tout ça. Mais il y aurait une histoire absolument fabuleuse à faire entre la Russie, l'Europe, depuis la fin du 19e, d'une invention incroyable de dispositifs dont certains se sont banalisés, sont devenus en fait des modes de capacité extrasensorielle qui se sont banalisés dans des outils technologiques, en fait. Et je pense à la photo, le cinéma sont le produit de... Enfin, la radio... Enfin, en fait, toutes les technologies qu'on connaît sont en fait des capacités extrasensorielles banalisées, quoi. Donc, il y aurait une histoire. Voilà. Alors ça, c'est quand même le meilleur exemple. Et donc, on se rend pas compte de ça, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et il y a toujours aujourd'hui, aux marges de la technique, enfin, de la technologie, des gens qui vont la pousser dans des directions où elle n'est pas encore allée. Et nous, ça nous intéressait beaucoup, la géobiologie, pour ça, parce qu'on est tombé sur des gens, en fait, qui étaient des inventeurs de nouvelles, de nouvelles relations avec la technologie aussi, ou de façons de la pousser, et parfois avec un rêve. Complètement, enfin, c'est pour ça qu'on a appelé ça rêve d'absolu dans notre titre, parce qu'il y a des gens qui ont des rêves qui dépassent, enfin, on va en parler parce que voilà, ouais, d'accord, mais voilà, enfin, on a conçu notre intervention un peu comme une sorte de dialogue.
C'est à la fois un parcours.
Ouais, un parcours.
C'est à la fois notre parcours.
Faire rentrer des exosensibilités différentes les unes après les autres, on va voir ce que ça donne. En commençant peut-être par les scarabées, je sais pas si tu veux peut-être ajouter des choses à...
Non, bah, je crois que tu as peut-être... Alors attends, on va juste retrouver. Peut-être qu'on va faire un petit peu comme pour le Qigong. On va vous mettre en ambiance. Alors, je ne vais pas vous demander de faire le scarabée. Tu me mets ça en 44-05, s'il te plaît.
La vidéo que vous entendez en arrière-plan est celle d'un combat de scarabée rhinocéros en Asie. Autour des scarabées, des parieurs suivent l'avancée du combat.
A priori, vous avez eu assez de temps pour vous poser la question quand même cruciale, c'est par où ça passe. Ce qui passe et par où ça passe. Donc là, on voit comment, pour nous ethnographier, ce genre de terrain a posé très directement et très concrètement la question de toutes les hypothèses qui pouvaient nourrir ce jeu, car il s'agit bien d'un jeu, même s'il est assez sérieux vu qu'il y a des paris, comme vous allez sûrement vous en rendre compte. Donc c'est quand même un jeu qui cristallise des vraies questions sur ce qui peut passer entre deux animaux qui appartiennent à deux bouts quand même assez, pas opposés, mais enfin quand même assez différents de l'arbre phylogénétique. Et donc qui posait la question aussi bien pour les joueurs, comment ils s'étaient posé cette question-là et comment les anthropologues que nous étions pouvaient se la reposer derrière, en écho, à savoir qu'est-ce qu'on peut partager, et jusqu'à quel point nous on devait chercher comme une nouvelle théorie de la communication, quelque chose de plus élargi, qui pouvait faire, donc, comme disait Emmanuel tout à l'heure, sur les questions de d'intensification du rapport à l'environnement ou à d'autres choses en termes de communication. Là, on ne pouvait pas évidemment rester à une théorie de l'information, une théorie de la communication entre informateur et récepteur classique. Donc c'est poser le problème à la fois du rapport entre ce qu'on pouvait entendre par signal et par signe, des choses qui ont été dans la langue, dans la communication, des choses qui ont été plus ou moins abordées par des chercheurs, par anthropologues comme Grigory Bateson, à propos des animaux notamment, qui a été repris par Deleuze, c'est pour ça qu'on vous a envoyé notamment le texte de Gilles Deleuze, qui lui en fait a lu un petit peu tous les gens qui nous ont inspirés, qui nous ont justement permis de repousser les murs de ce que c'est la communication, à savoir en fait plus un problème de communication que de la communication stricto sensu, c'est-à-dire que c'est jamais parfait. Cet élargissement de la communication, donc on l'a fait avec Grigory Bateson, avec Gilbert Simondon, je vais en parler dans un instant. Parce que finalement là, on n'a pas simplement un problème de savoir est-ce que ces animaux-là, comme nous, sommes et sont-ils capables de faire la différence entre un signal et un signe, et savoir d'attribuer un signe plus ou moins stable, à un signal. Mais donc, comme dans la fameuse communication analogique qui avait été isolée par Bateson, et qui a repris Deleuze, qui a repris Simondon aussi à sa manière. Mais là, c'est la question encore est encore plus presque plus radicale, c'est de savoir est-ce que même il pouvait y avoir un signal sur ce jeu-là à partir du moment où les joueurs nous disaient que la seule façon de communiquer avec des scarabées, c'était d'envoyer une espèce de vibration comme ça, comme vous avez vu un petit stylet qu'on fait vibrer sur le rondin en bois là, sur l'espèce de ring à scarabée. Et donc Donc cette première question se posait, et la deuxième question c'était celle des règles. On s'est aperçu rapidement que les règles c'était une notion qui était quand même très aléatoire dans ce genre de jeu, parce que est-ce que ce jeu pouvait avoir des règles? Est-ce qu'on pouvait faire entrer ce jeu de scarabée, c'est-à-dire donc des comportements de scarabée, dans quelque chose qui était signifiant, qui pouvait devenir un spectacle pour des humains? Et donc on s'est aperçu au fur et à mesure que effectivement le spectacle que procurait ce jeu et le plaisir qu'il procurait était justement cette constante adaptation et d'essayer à la fois d'avoir des règles assez souples pour pouvoir les négocier, si vous voulez, au fur et à mesure du jeu. Pour dire les choses très rapidement, il est difficile de savoir ce que c'est une action de scarabée, quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle finit, de savoir quand est-ce qu'un scarabée a vraiment l'avantage ou définitivement l'avantage sur l'autre, quand arrêter finalement ce foutu combat, quoi. Enfin, on peut se poser vraiment la question. Donc il y a un ensemble de questions qui ont traversé évidemment l'imagination des joueurs. Et finalement, en reprenant l'hypothèse de Simondon d'une forme de continuité entre deux types de communication qui sont la communication écologique et la communication éthologique. La communication écologique, c'est celle qu'on a, enfin nous, qu'on ressent au niveau de chaque cellule, au niveau de chaque organe, qui fait qu'on est en échange, que les organes sont en échange permanent les uns avec les autres, donc qui passe bien, évidemment bien complètement en deçà de la conscience. Et puis la communication éthologique qui est celle qui nous sert, c'est la communication analogique, si vous voulez, donc tous les échanges émotionnels qu'on peut, qu'on a bien validé chez les mammifères, donc notamment chez les humains. Et puis, évidemment, la parole humaine. Mais là, on ne va pas rentrer dans le débat. Donc, l'idée de Simondon, ce n'était pas d'opposer les deux niveaux, c'était plutôt d'organiser la continuité, la possibilité d'une continuité de l'une à l'autre. C'est-à-dire de dire que finalement, la possibilité de communication éthologique ne pouvait qu'émerger. En fait, elle ne se construisait pas contre, mais elle émergeait. Donc, ce n'est pas une différence entre signal et bruit. Et là, pour le coup, nous, ça nous parlait complètement, le dispositif. Mais c'était plutôt comment, à partir d'un bruit, il y a un ensemble de possibles, de signaux, peut-être déjà, et éventuellement de signes, c'est-à-dire de conventions qui vont se faire entre des espèces différentes. Voilà, je passe vraiment très rapidement. Mais en tout cas, le jeu est suffisamment les règles sont suffisamment larges, suffisamment souples, pour permettre un ensemble d'interprétations et à se poser la question de savoir si finalement c'est pas plus les scarabées qui font entrer les humains dans leur forme de sensibilité que le contraire. Et qu'au bout du compte, si donc on restait dans l'argument simondien, c'était de dire finalement, sans pouvoir être plus précis que ça, c'était la limite de l'exercice, de se dire finalement que les deux seuls joueurs, quand on voit les joueurs qui font vibrer leur petit stylet sur le scarabée ou bien sur le rondin, en fait toutes les opérations techniques du jeu visaient à entretenir un espèce de champ vibratoire, c'est-à-dire un champ des possibles, quelque chose que le scarabée recevait, traitait, et dont il faisait éventuellement quelque chose d'intéressant, à savoir combattre pendant un certain temps. Pour faire un petit différentiel, pour comprendre à quel point le jeu est performant de ce point de vue-là, en termes donc de création d'un monde commun, d'un aspect de monde de possible comme ça, de combat possible entre humains et scarabées, c'est que normalement ce type de combat dans la nature dure 2 à 3 minutes maximum, et là on avait des combats qui pouvaient durer jusqu'à 40 minutes. Donc vraisemblablement, il y avait un ensemble de circuits, si vous voulez, donc de circulation d'intensité divers et variés, qu'on n'a pas forcément nommé, on n'a pas été jusque-là, mais en tout cas qui justifiait le fait qu'on pouvait à la fois en tant qu'humain s'intéresser à regarder des combats miniatures comme ça pendant 40 minutes, et que des scarabées se prêtaient aussi au jeu, alors qu'a priori c'est pas quelque chose qui s'imposait d'emblée. Voilà. Donc là on est plutôt dans quelque chose qui est du domaine de la... d'une sensibilité minoritaire, alors surtout décalée et hétérogène, d'accord, et donc qui posait un problème à la fois de connexion, de conductibilité et d'un début de normalisation de qu'est-ce que c'est et jusqu'où on peut, imposer une vision d'une matière comportementale qui est quand même très très floue. Voilà. Et donc on va passer à des choses un peu plus structurées.
Peut-être ajouter par rapport à ce que tu as dit, c'est qu'il y a une... En fait, on s'est retrouvé effectivement, on avait écrit un article, on a écrit plusieurs d'ailleurs, mais sur l'idée de champ vibratoire, dans les histoires de scarabées. Mais c'est un peu comme la notion d'énergie, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'autres notions pour parler de ça. On savait qu'il y avait des choses qui transitaient et qui n'étaient pas forcément alors formulées non plus par des gens comme étant de l'ordre. Je veux dire, c'est pas scientificisé. L'éthologie des scarabées, elle est pas très développée et en fait, elle est même pas nécessaire.
Elle est assez fausse en fait.
Elle est assez fausse, ouais. Et elle est pas nécessaire. C'est-à-dire que les gens ont pas besoin de savoir comment un scarabée perçoit ou même ressent des choses pour pouvoir établir une communication et qu'il y a un signal qui entre guillemets quoi, enfin qui passe, enfin quelque chose se passe et qui puisse ensuite exploiter. Même donner lieu à une véritable, je ne vais pas dire industrie, mais disons qu'il y a une industrie des paris autour des scarabées, tout ça. Et donc ça nous avait beaucoup intéressé. Et puis je me suis rendu compte qu'on s'est, en fait, c'est le même problème qu'il y a dans beaucoup de domaines, mais notamment en géobiologie, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir exactement qu'est-ce qu'on capte en termes physiques pour pouvoir jouer avec et manipuler des choses et puis proposer aux gens des tas de solutions et tout. C'est un problème que... Alors, moi, j'ai rencontré ça récemment parce que je reviens d'Amsterdam où j'étais avec des artistes qui travaillent sur les plantes et qui font des... est-ce qu'on va entendre quelque chose ? Alors, en fait, ils font des espèces d'expérimentations. Ils essayent de se connecter avec un des cactus, avec des plantes, pour attraper le signal des plantes. Et donc, ils ont conçu cette espèce d'appareil, enfin de machine, si vous voulez. Alors là, c'est pas les sons de la plante que vous entendez, mais il y a un moment, enfin, parce qu'eux, ils ont l'habitude. Il y a quelque chose qui va se transmettre dans cette espèce de brouhaha de chaos de signaux, voilà. Et quand ils touchent, on entend des trucs. Et alors, c'est une expérimentation en cours. Alors c'est pas fini, quoi. Mais ils n'arrêtent pas de bricoler comme ça. Et en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on capte. On ne sait vraiment pas d'où ça vient non plus. Mais on peut faire la différence, c'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait on a un signal, on a des choses qui changent. Et puis, alors attendez, je vous montre un autre passage. Non, je montre ça, c'est assez drôle, parce que quand il éteint son mégot, la plante réagit. Alors, est-ce que c'est la plante ou est-ce que c'est je sais pas quoi, enfin, où est-ce que ça se passe, on sait pas trop où est-ce que ça réagit, mais en tout cas la plante réagit à des trucs, enfin voilà. Et quand on met deux plantes les unes à côté des autres et tout, il y a plein de trucs qui se passent, enfin c'est assez rigolo. Et donc ils ont, enfin pour eux c'est en fait la plante, c'est presque un organisme qui est ce qu'on fait de plus sensible dans l'environnement aujourd'hui, et donc ils s'amusent avec ça, quoi. Et ils ont reproduit en fait cette machine qui est une espèce de truc qui a été en fait conçu par un ingénieur américain assez fou dans les années 60, qui a travaillé à la NASA, et qui faisait expérience avec des plantes pour communiquer avec des aliens. Et il était convaincu qu'en fait on pouvait établir une communication intergalactique via les plantes. Donc il avait connecté des plantes avec un télescope. Et il avait des signaux, c'est les premières recherches en fait sur la communication extraterrestre. En fait, elles ont été faites autour des plantes, en fait. Et donc c'est des espèces de circuits complètement étonnants, parce qu'on s'imagine pas qu'il faille passer par les plantes pour communiquer avec l'espace. Mais bon, il y a des gens qui l'ont fait dans cette histoire. À laquelle on s'intéresse, quoi, enfin, de ces dispositifs un peu limites de ces machines. Alors voilà, ça c'était juste un exemple parmi d'autres. Ce qu'on voulait vous montrer, alors c'était pour avancer plus directement dans l'histoire de géobiologie, c'est une machine. Et celle-là.
इनका रूट चक्र बिल्कुल ही इनबैलेंस है ये 100% माइनस जा रहा है और आपको बता देता हूं
मैं je vous mets pas le son parce que c'est du hindi, vous comprendrez pas, voilà. Mais alors bon, c'est un appareil qui est en fait ça s'appelle un universal aura scanner. Donc c'est un scanner d'aura universel. Et donc c'est un ancien ingénieur en énergie atomique, énergie au sens vraiment en physique. Indien qui a inventé ça, c'est pas lui, ça, lui c'est un astrologue qui utilise cette machine, mais beaucoup utilisent ce truc là en Inde aujourd'hui, et c'est lui l'inventeur de ça. Et lui, toute sa théorie, c'est qu'on pouvait, avec cet appareil, alors qui est en fait des baguettes de sourcier, quoi, enfin si vous voulez, mais avec un espèce de circuit électronique, et puis dans laquelle on peut mettre n'importe quelle substance ou matière de ce que vous voulez détecter à distance.
Ce qu'on fait avec les
Roadmaster, complètement, ouais. Et là, moi, quand j'ai rencontré cette personne, je me suis dit, mais en fait, il est complètement génial et tout. Donc, il a inventé une boîte qui s'appelle les Géo-Ingénieurs. Donc, c'est les Geoengineers, donc version indienne, en fait, de la géo-ingénierie, si vous voulez. Et il est parti évangéliser, si vous voulez, les gens avec ce truc, en disant, voilà, si vous avez l'instrument de mesure des énergies universelles qui permet de mesurer la compatibilité de n'importe quel objet ou substance avec n'importe quoi. Et donc là, il essaye de montrer que, en fait, si on... Voilà quelle est l'aura de la personne, enfin le champ énergétique, si vous voulez, désolé pour le terme, mais enfin bon, c'est encore une fois pour en discuter tout à l'heure. Parce que c'est... Et là, quel va être l'effet de faire une circonvallation autour de la vache, qui doit donc changer le champ énergétique de la personne,
et faire en sorte qu'elle ait un champ énergétique plus grand. Et il s'est mis à faire des mesures, mais c'est peut-être une des plus folles campagnes de mesures qu'on ait jamais réalisées, enfin en Inde en tout cas, parce qu'il a mesuré la compatibilité de tout avec tout. Donc c'est des, tout ce que vous mangez, tout ce que vous... alors il y avait les arbres, les minéraux, il y a absolument tout. Et ces livres sont des espèces de listes à n'en plus finir de mesures des champs énergétiques de tout et des interactions avec des champs énergétiques, enfin avec des objets entre eux. Et alors c'est drôle parce qu'en fait c'est une obsession de la géobiologie actuelle, c'est-à-dire que c'est presque un horizon vers lequel elle va sans le savoir, qui est de savoir comment mesurer.
C'est notre premier absolu.
C'est ça le rêve d'absolu, qui est dans cette recherche d'un instrument écologique total, de pouvoir mesurer la compatibilité entre les choses, les gens, les matières, les lieux, etc. Et d'avoir cet instrument de mesure un peu total. Et ça, bah, lui, il a inventé le truc qui a... Donc maintenant, c'est une folie, cet usage. On le trouve utilisé partout en Inde. Il avait toute une théorie de l'énergie derrière qui était, peut-être pas développée, mais pour lui, c'était clair qu'il mesure quelque chose de très tangible, qui est une énergie védique, alors que c'est pas le chi des Chinois, mais c'est l'équivalent pour l'Inde ancienne en fait, et qui mesurait à une certaine fréquence et tout, mais disons que ça avait une existence dans le champ physique, voilà, ce qui mesure, et que ça pouvait être, que c'est extrêmement variable, extrêmement fluctuant d'un individu à un autre, selon l'interaction que vous avez eue même avec tel ou tel objet, voilà, ce que vous avez mangé, tout ça. Sachant que son idée, c'était que les humains sont énergivores et ont besoin de beaucoup de manger beaucoup et d'absorber beaucoup pour pouvoir augmenter leur énergie en permanence. Et donc on est des espèces de consommateurs fous de choses énergétiques. Alors au sens vraiment, on doit se nourrir de comme ça. On est énergie dépendant, quoi. Voilà. Et donc voilà l'instrument qui permettait d'une certaine façon de contrôler ça et de savoir exactement ce dont on avait besoin. Alors ça c'était c'est après avoir travaillé un peu là-dessus sur ces histoires-là en Inde qu'en fait on s'est mis à faire le terrain sur la géobiologie et où en fait on a rencontré des gens qui enfin d'une certaine façon on s'est dit mais en fait leur absolu à eux c'est d'arriver à une cosmologie analogique au sens de Descola avec des liens et des associations entre les substances, les éléments, les lieux, etc. Un truc un peu comme on voit, alors en astrologie indienne, vous êtes amusé à faire ça dans un livre sur un astrologue indien, enfin vous avez absolument tous les astres qui sont connectés à des choses très, très différentes les unes des autres, mais qui sont à la fois des organes, des distances, des matières, des saveurs, des couleurs, etc. Donc ça, c'est un système analogique assez classique. Voilà. Et en géobiologie, et puis je vais te laisser, peut-être. On va trouver des. Alors, je vous montre juste les dessins de. Il y en a qui le connaissent, ceux qui travaillent sur la géobiologie de Cardinaux. Alors, ça, c'est dans ses bouquins. Mais on va retrouver systématiquement une référence à l'Inde. Et au système de classification des chakras, etc. Alors ça, c'est depuis la fin du 19e, en gros, il y a cette inspiration orientale. Sauf que là, en fait, il y a une vraie volonté de normer et de scientificiser ça en mettant à chaque fois des fréquences des fréquences très précises qu'on aurait mesurées, etc. Et Cardinaux fait ça sur l'ensemble des sur les couleurs, sur les chakras, sur tout ça, enfin avec à chaque fois l'effort de préciser ce que ça pouvait être en termes de mesure, quoi.
Ouais. Oui, non, juste pour préciser sur la nature analogique à la fois du enfin, du processus et aussi de la, enfin, comment dire, de la façon donc de codifier tout ce rapport qu'on entretient avec l'environnement. Pour avant donc de passer, on va passer après à une espèce d'opposition qu'on espère constructive donc entre deux profils qui sont donc, vous avez compris, donc Stéphane Cardinaux d'un côté, puis on va vous parler un peu de Ravatin, qui tous les deux, Jacques Ravatin, qui propose qui ont des propositions finalement assez, qui se rejoignent mais qui sont opposées, en termes de mobilisation et de socialisation, de partage de certaines conventions. Et donc je voudrais revenir sur la façon de faire de l'analogie, pour montrer, on avait une discussion tout à l'heure intéressante à midi, donc je vais revenir un petit peu... Je ne sais pas où est notre interlocutrice, je ne me rappelle plus son prénom. Bah si, bah tu es là, excuse-moi. Et c'est ton prénom, c'est du coup... Claire, voilà, donc avec Claire. Et donc c'était de faire remarquer que quand on regarde, si on reprend les arguments que tu développais tout à l'heure sur les problèmes aujourd'hui d'éveil en relation à l'environnement, cette espèce d'augmentation de la sensibilité qui monte dans le monde. Donc là, on voit très bien comment ça monte en grade, comment on dépasse le corps, comment on dépasse des sensibilités qui sont... Pour le coup, on le voit géographiquement, graphiquement, qui sont extracorporels. Où en fait, donc, ce genre de codage, je dirais analogique, existe donc dans des pays, donc, comme Emmanuel l'a montré, en Inde, où là déjà c'est déjà assez structuré, où les choses sont entre guillemets relativement tendues, dans le sens où il y a un objectif. Tout à l'heure, quand on vous parlait des scarabées, où on aurait pu donc vous parler des combats de poissons ou d'oiseaux, etc., se joue aussi l'idée que l'énergie donc qui passe à travers les scarabées, et dont nous bénéficions, nous, en tant que joueurs, qui parions, donc toutes ces intensités-là, quelque part sont à la fois aussi le signe d'une bonne santé de l'environnement et d'un certain rapport à l'environnement, dit soi-disant harmonieux, etc. Mais c'est évidemment un discours qui est construit derrière, c'est-à-dire que le jeu n'est pas construit comme, je dirais, un élément pour percevoir si telle ou telle partie de l'environnement est en bonne santé ou pas. C'est juste que rétroactivement, le terreau culturel est tel que simplement jouer à récolter les bons scarabées, trouver les bons scarabées, avoir des coins à scarabées, d'accord, c'est comme les champignons, hein, chez nous, quelque part, aller chercher les scarabées, savoir chercher les scarabées, c'est quelque part à la fois participer à une espèce de veille écologique, vous voyez, qui est reconstruite comme ça, après, a posteriori. Et donc là, en fait, le problème qui se posait, il était simplement dans le jeu de savoir comment on crée des conventions qui conviennent à la fois aux scarabées et qui conviennent surtout aux humains. Donc, un espèce de codage analogique qui permet de réunir tout le monde dans une même trame. Là, ici, on a une obligation, voilà, de tendre un petit peu plus le système où on a, parce que là, finalement, la carte que nous propose Emmanuel, donc celle de Stéphane Cardinaux, c'est donc le résultat d'un ensemble donc d'expérimentations qui sont celles d'une espèce de spectrométrie intégrale. C'est quoi, c'est 22 000, ça va de, je sais plus, 0 à 22 000 Hertz, ou je sais plus, un truc, quelque chose comme ça, ou 22 000 40, si je me souviens bien. Et c'est juste limité à cause des cartes graphiques, nous dit Stéphane Cardinaux, sinon il serait allé plus haut. Des cartes son des ordinateurs, disponibles au grand public. Et donc on a... Donc là, toute une spectrométrie absolument presque bouleversante, quoi, d'une mise en tranche de notre rapport à l'environnement. Donc, et là, on est obligé de rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus précis. Je te laisse développer la suite. Ouais, ouais.
Bah, alors, en fait, ce qui nous a beaucoup intrigué avec Cardinaux quand on est allé le rencontrer, c'est qu'il a, la première chose qu'il nous a dit, c'est que en fait, toute la sensibilité qu'il avait développée, et puis ce regard qui faisait que, effectivement, ils avaient en groupe développé des tas d'expérimentations, enfin, surtout avec sa femme, créé une espèce de groupe où, en fait, ils essayaient de prendre des mesures, de mesurer alors, toutes les fréquences, etc. Puis de voir les effets à chaque fréquence, qu'est-ce qui se passait et tout, sur la personne, sur les organes du corps, sur tout ça. Et il nous a dit, mais en fait, j'essaye de tout mettre dans une machine, dans un logiciel, parce que c'est le seul moyen pour que ça se perde pas, et puis que ça continue, quoi. C'est avec Jérémy qu'on parlait tout à l'heure, on disait qu'en fait, ça allait presque à l'encontre du positionnement relativement conservateur, du coup, de géobiologue par rapport aux machines, mais là il y a une espèce de
Alors, de projection dans le futur avec Cardino qui était tout à fait intéressante. C'est-à-dire que l'idée qu'au fond, finalement, il n'y avait qu'une machine pour pouvoir alors à la fois absorber et puis dépasser nos capacités sensorielles. Enfin, voilà. Et qu'il fallait d'une certaine façon nouer un pacte avec les machines qui soit un autre pacte que celui qu'on noue d'habitude, qui était presque j'ai presque envie d'appeler ça un pacte hallucinatoire, c'est-à-dire où en fait les machines elles-mêmes auraient plus de capacité que les humains pour percevoir les choses.
Le paradoxe, c'est que la machine est à la fois la signature sensorielle et extrasensorielle d'un individu ou d'un groupe d'individus. Alors là, on pourrait détailler comment effectivement les choses se construisent. Et en même temps, la machine est conçue comme une possibilité de dépassement des capacités d'un humain, puisque en fait, Stéphane, lui, ce qu'il veut en faire, c'est un outil universel, quelque part, pour tous. Enfin, si on résume.
Et alors, cette machine, en fait, c'est ça. Et c'est aussi bête que la machine que vous avez vue tout à l'heure, enfin, qui sont ces espèces de baguettes, quoi.
C'est de la radiesthésie améliorée, mais c'est de la radiesthésie.
Et en fait, donc, c'est un verre d'eau qui sert, en fait, de récepteur, un peu comme la plante chez les artistes musiciens que vous avez vus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on considère que l'eau est finalement l'élément le plus sensible, enfin, qui... ouais, sur lequel va se cristalliser de l'information. Et ça, c'est vraiment une notion de Cardino, en fait, qui est derrière toute une théorie de l'information, hein, sur laquelle on va peut-être revenir. Et que c'est cette eau qui va, d'une certaine façon, capter l'information, et puis qu'ensuite, on va pouvoir la traduire. Donc, il s'est baladé un peu partout, il mesure des lieux avec son verre d'eau, si vous voulez. Il se met dans des endroits, et puis il vous mesure, vous, avec son verre d'eau, avec tout ça, enfin, vous mettez votre doigt quelque part, il y a un capteur pour les personnes, etc. Et puis, il y a toujours le verre d'eau qui sert pour recevoir une information quelque part, qui sera ensuite codée et qui donne lieu à une espèce de... Comme disait Stéphane tout à l'heure, il y a un codage avec 20 000 entrées, des choses complètement étonnantes en termes de... Enfin, on est vraiment dans une entreprise de codage exhaustif absolu. Et voilà. Et donc, alors, on a eu affaire à... Donc, il y avait d'un côté, j'ai envie de dire, des gens un peu comme ça, mais même si lui, là, il est assez unique, mais il y a quand même ce... Avec une volonté presque scientiste de légiférer sur les ressentis, sur les sensations, pour pouvoir les coder et arriver à un système de codage absolu dans une bonne harmonie avec les machines, au fond, on va dire. Ça, c'est un peu le rêve d'absolu de Cardino. Et puis, alors, de l'autre, tout un courant, et on les oppose, mais en fait, il y a beaucoup de gens, c'est très hétérogène, comme ceux qui travaillent sur la géobiologie le savent, enfin, il y a beaucoup de gens très éclectiques. Mais je dirais qu'à l'autre bout du spectre, des gens qui nous disent qu'il n'y a absolument rien de... Alors, rien de physique, ou rien, en tout cas, qui puisse se mesurer ou qui puisse se capter à l'échelle de la physique normale. Et qu'en fait, tout ça n'est ni électromagnétique, ni... ça correspond absolument en rien à la physique telle qu'on la connaît. Et souvent, ces gens-là sont des anciens physiciens qui se sont mis à la géobiologie après, et qui ont rompu d'une certaine façon avec la science, des modes conventionnels de recherche, et qui ont fait école, qui ont monté des espèces de groupes, là aussi, un peu, souvent des groupes un peu de clairvoyants, avec des gens avec qui ils pouvaient monter des expérimentations et tout, et qui ont plus ou moins fait école, d'ailleurs, finalement, parce que nous, on s'est retrouvés à se former avec des gens qui avaient été formés par ces gens-là. Donc, il y a comme ça des modes de transmission de ce genre-là, quoi. Enfin, c'est des petites communautés à chaque fois. Mais avec l'idée que, en fait, alors, et là, ça rejoint un peu ce que nous avait dit cardinaux, et je vais te laisser développer là-dessus, enfin, sur l'aspect un peu théorie de l'information. L'idée qu'en fait, on peut utiliser à peu près n'importe quoi pour capter des choses ou pour modifier un environnement, n'importe quel dispositif, au fond, à partir du moment où on l'a informé avec de l'intention, enfin une forme d'intentionnalité, et qu'en fait, il y a de l'information qui circule partout, si vous voulez, et que, alors ça n'a rien à voir avec des fréquences, avec des champs électromagnétiques et tout, mais qui a, d'une certaine façon, possibilité de fabriquer du dispositif, de l'objet, qui vient modifier, au fond, la situation énergétique d'un lieu. Ou de, enfin, voilà, du... et donc, bon, là, on a tout un champ ouvert à des tas de dispositifs. Je vais vous montrer. Alors, on appelle ça du quantique aujourd'hui. Donc c'est plus l'énergie, on a franchi un autre cap dans l'énergétique, on appelle ça le quantique, voilà. Donc on va, alors ça se vend beaucoup d'ailleurs, des dispositifs quantiques aujourd'hui, enfin voilà, c'est le mot qu'on va retrouver pour voilà. Et alors l'un des premières personnes à avoir fait des dispositifs de ce genre, c'est Jacques Ravatin. Donc, je vous montre les dispositifs qu'ils faisaient, qui sont tout à fait étonnants, parce que bon, c'est les années 60. Ils faisaient des appareils comme ça, dans le genre circuit faible, c'est quand même assez étonnant. Parce qu'on... Alors, là, ça, c'est des bouquins de Ravatin, et Ravatin se trouve des tas de collègues partout dans le monde, aux États-Unis, en Russie, en Ukraine, en Inde. Donc il cite les recherches, alors ça commence généralement au début du XXe siècle, de gens qui sont aux franges de la physique en fait, et qui inventent des tas de dispositifs pour capter des forces, mais qui sont pas dans le champ électromagnétique, voilà. Et donc il va se mettre à fabriquer des trucs comme ça avec des cailloux et tout. Avec souvent des théories sur le champ magnétique terrestre, qu'on va retrouver comme ça, et sur les courants telluriques et tout ça. Tu veux peut-être dire un mot sur
Ravatin et...
Ouais.
Sur Ravatin, attends, je réfléchis. Mais... Oui, enfin, je voulais revenir sur le... Alors pas tant en termes de théorie de l'information que de... Enfin, je veux revenir sur l'aspect de codage et donc de reprendre l'idée de greffe de code telle qu'elle est développée par Deleuze dans le texte qu'on vous a envoyé. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle ce texte-là était important pour nous. C'était en fait quelque part de considérer donc à la fois le type de sensibilité qu'il fallait développer quand on est joueur de Scarabée. Bon, on ne dira pas forcément Scarabée non plus. Mais il faut quand même entrer dans un autre monde sensible. Alors jusqu'où on peut ? Ça, c'était la question. Les joueurs étaient plus ou moins sensibles. Vous aviez des joueurs qui étaient presque dans le mécanique, hein, dans la relation de contrôle, hein, comme la télécommande, donc, qui jouaient beaucoup sur le rondin de bois, qui essayaient vraiment d'influencer, etc. Puis on avait des gens qui étaient plus dans une espèce de... on va appeler ça une communication. On se retrouve presque avec un cas qui est similaire à celui de Hans le Malin, décrit par Vincent Després, là l'expérience donc début du 1918-1919, enfin, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, donc de l'énigme de ce cheval qui savait compter en Allemagne, du côté de Berlin. Et donc tout le travail des psychologues a été de monter un dispositif expérimental qui permettait de passer au travers de deux écueils, qui était celui de l'hypothèse d'une intelligence conceptuelle chez le cheval, bon, et puis de l'autre côté, celui des parapsychologues, c'est-à-dire d'une transmission de pensée avec des rayons, je ne sais plus quoi, machin, truc, bidule, entre le cheval et celui qui posait les questions. Bref, tout ça pour dire que finalement, donc, l'assistant du chercheur principal, donc, qui s'appelle donc Oscar Pfungst, si mes souvenirs sont bons, donc, avait montré que en fait, c'est juste le cheval était tout à fait sensible à des micro-mouvements qui trahissaient la bonne réponse chez le cheval. Enfin bon, après, je passe sur les détails, mais si ça vous intéresse, on peut en reparler. Mais... tout ça pour dire que on peut donc développer des formes de sensibilité. Après, on ne sait pas trop forcément à quoi ça correspond. Et que finalement, le codage, ce qu'on va appeler le codage de cardinaux, est quelque part une prolongation aussi lui-même du codage même de radiesthésique, à savoir l'utilisation d'une transmission donc d'un signal, quel qu'il soit, pour le coup, on peut en discuter, mais tout est ouvert, je crois. Sur. Là, je suis à la place du cheval, mais ouais, tu peux. Cheval, mais... ouais, non, mais c'est bien. C'est bien les fâches aussi. Et l'idée que, déjà, le travail radiesthésique avec des roadmaster, donc avec des baguettes hein, en géobiologie, ou avec un pendule, ou alors pour des gens comme Cardinaux, à l'école Cardinaux, où ils font ça à la main, ou même. Directement, les types qui cherchent de l'eau comme ça avec leur corps. Donc, quelque part, transformer son corps aussi en objet phéniste, donc radiesthésique, pour le coup, c'est déjà commencer à coder à partir du moment où vous codez des sensations. Enfin, voilà. Après, vous avez des clairaudients qui vous disent qu'ils entendent des trucs, mais ce n'est pas tout à fait du son. Vous avez des clairvoyants qui vous disent qu'ils voient des trucs, mais ce n'est pas complètement de la lumière. Vous avez des clairsentants qui vous disent qu'ils sentent des trucs, mais bon, en même temps, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est de la somesthésie ? Enfin, voilà. Est-ce que ça rentre dans le champ de la somesthésie ? Est-ce que... enfin, c'est quoi les circuits, finalement, dans le corps, etc. On peut vraiment se poser la question. Et donc, lui, Cardinaux, fixe un petit peu ces choses-là avec des listes de propositions qui correspondent à des sensations, qui correspondent à des fréquences. Donc, on a vraiment des grilles analogiques super précises, très, très chiadées, vraiment travaillées pendant des heures et des heures. Collectivement et puis après individuellement, c'est lui qui finalise tout ça. Donc avec des mises en série de phénomènes qui sont plus ou moins proches du corps, voire après un moment à l'intérieur du corps, etc. Et donc on a... donc voilà, Ravatin finalement fait à peu près la même chose, parce que lui il part aussi sur une conception plutôt, donc pareil, phéniste du monde. Donc là, Emmanuel nous parlait d'une espèce de physique alternative, hein, avec tous ces F, ce qu'ils appellent les ondes de forme, des choses qui ont été reprises, qui traversent plus ou moins la physique aussi telle qu'elle a été, enfin, ou une physique alternative telle qu'elle a été développée, comme tu disais, en Russie et en Ukraine. Donc là, il y a plein de chercheurs qui ont fait des choses qui sont toujours assez borderline par rapport aux... qui sont effectivement, qui confitent maintenant à la recherche quantique. Et en même temps, nous, on a reçu un enseignement de quelqu'un donc, qui était en collaboration, en tout cas qui a reçu l'enseignement de Ravatin, et qui, quelque part, même la physique quantique, il la refusait, quelque part. C'est-à-dire que, pour lui, le nouveau défi de l'époque, c'était le défi de Ravatin à l'époque, c'est-à-dire de sortir du vocabulaire de l'électromagnétisme, sortir du vocabulaire aussi de la géologie, à savoir qu'une faille, c'est pas une faille géologique, c'est pas une faille géobiologique. Et donc, c'est-à-dire de prendre au sérieux l'idée qu'il existera une espèce de physique alternative qui se déroule pas dans le monde rationnel, comme dit Ravatin, et que les objets phénistes sont là pour nous aider à développer des modes de sensibilité qui nous permettent finalement d'accéder à la partie immergée de l'iceberg, quelque part. Donc, mais là, on bouge un peu trop peut-être dans la première séance que vous avez eue sur les franges du phénoménal. Mais bon, c'est difficile de séparer les choses, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure. Sur tous ces sujets-là, ça peut être douloureux. Voilà. Et donc, Ravatin propose lui aussi une entrée, on va dire, différente en termes de codage, mais qui est beaucoup plus libre pour le coup que Cardinaux. C'est un petit peu là l'argument. Et je te laisse finir sur Ravatin, sur la proposition plutôt libertaire.
Alors, ouais, mais c'est vraiment une proposition. C'est vraiment très provisoire. C'est une interprétation de part. Ouais. On s'est dit qu'il y avait eu deux tendances, en tout cas. Mais une tendance un peu totalitaire qui vise à... et alors, plus, en fait, on a une sensibilité qui se vit comme étant minoritaire, plus, en fait... il va y avoir un gros effort, un gros travail derrière pour justement offrir une vision totalisante, voire même totalitaire, parce que chez Cardinaux, il y a un peu de ça. Donc on va avec surcodage, tendance au surcodage. Et alors, c'est pas le juger, mais c'est disons, il faut bien essayer de classifier un peu les choses. Et parce qu'il y a une autre tendance qui au contraire, une tendance très libertaire et qui est celle un peu à la Ravatin, c'est consiste à dire au fond, vous pouvez faire n'importe quoi avec, enfin, parce que la réponse à la question par où ça passe, c'est n'importe où, en fait. Voilà. Donc, si la réponse à par où ça passe, c'est n'importe où, bah, en fait, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Il faut expérimenter, il faut faire des choses, les bons dispositifs, les bons bricolages, etc. Mais en gros, il n'y a pas de limite. Voilà. Et il y a aussi ça, un peu chez les cardinaux, d'ailleurs, il y a cette idée qu'au fond, tout est possible. Tout est possible. Mais comme il y a une volonté un peu de surcodage chez lui, on s'est dit, voilà, il y a ces deux tendances. Ça ne correspond pas forcément à des gens, ça correspond à plutôt des tendances de la géobiologie actuelle.
D'autant plus que les vécus de sites, les vécus de cas, d'expérience sont à peu près les mêmes chez les deux.
Oui, c'est ça, oui. Et puis, alors, il y a une chose qui nous... Enfin, ça nous dérangeait un peu, le terme de sensibilité minoritaire. On ne savait pas trop pourquoi, comment ça... essentiellement à cause de cette idée que ça pouvait basculer dans... Il y a des choses qui sont dans le majoritaire, qui étaient dans le minoritaire, puis des choses qui redeviennent minoritaires, qui sont dans le majoritaire. Puis le minoritaire des uns n'est pas le minoritaire des autres. Enfin, quand on se décale entre l'Inde, la Thaïlande et la France... Bah, c'est... Puis on voit le nombre de malentendus qu'il y a entre les... Voilà, enfin, je veux dire, pour les Indiens, il ne fait aucun doute que les champs qui nous entourent sont... qu'il y a un spectre, quoi. Enfin, comme ça, que c'est partagé, que c'est hiérarchisé et tout. Mais alors, je veux dire, n'importe qui pourrait accepter cette idée, quoi, enfin, qu'il y a des choses qui nous dépassent totalement en termes de perception et tout. Et du coup, on se demandait si au fond parce que le subtil quelque part, parce que c'est un peu toujours ça qui est en jeu. Alors en Inde, c'est évident, c'est ça, c'est des géographies, des cartographies subtiles du corps, de l'environnement et tout. Bah, elles échappent par nature à l'opposition du minoritaire et du majoritaire. Il y a ce choix, effectivement, qui est de bifurquer à tout moment entre... Et je pense que c'est un problème auquel, je dirais, quand la sensibilité se heurte, quand elle commence à s'instrumenter et qu'elle veut se partager, au fond, mais c'est vraiment pour simplifier et caricaturer, mais il y a le choix, il y a la possibilité à tout moment de bifurquer entre... de prendre un virage un peu totalisant, ou au contraire d'être dans une espèce de liberté d'expérimentation, parce que c'est ça que ça permet, en fait, ces notions floues, la notion d'énergie, tout ça, ça permet de développer des tas de protocoles, alors faire des expériences et tout, qu'on ne pourrait pas faire autrement, et puis qu'on s'est interdit de faire aussi par bien des aspects. Je sais pas, on est à 50 minutes.
C'est difficile d'aller plus loin, mais... On peut entrer dans le détail après sur certaines choses, puis surtout fait créer des ponts avec ce que tu racontais, je crois. Oui.
Merci beaucoup.
D'abord, bravo. Merci beaucoup. C'était fascinant.